Et je lui ai dit que à cette personne, effectivement, nous prendrions le temps de nous retrouver pour louer le Seigneur. Est-ce qu'il n'y a pas une raison particulière, comme tous les dimanches, de louer le Seigneur, de le célébrer? Et encore plus le 24, quand toute la société environnante et nous-mêmes, nos familles, nous allons nous retrouver pour célébrer la naissance du Christ, même si ce message est encore aujourd'hui bien oublié dans la société dans laquelle nous vivons. Mais il me semble que ce matin est un bon matin, comme tous les dimanches, pour célébrer le Christ dans l'Église, au milieu de nous et dans nos vies. Alors j'ai choisi quand même un texte qui soit en rapport avec ce temps particulier. Et c'est un texte que l'on pourrait presque prendre pour une iconographie incontournable de la soirée de Noël. C'est dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 2, et c'est ce texte qui parle des mages. Ah, ces mages. On va lire ce texte, verset 1 du chapitre 2 de l'Évangile de Matthieu. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ce texte de l'Évangile est un texte qu'on pourrait hésiter à prendre pour apporter une prédication, tant il fait partie de l'iconographie de Noël. Les mages, les bergers, les étoiles, les petits moutons dans les pâturages, les anges dans le ciel. Ça nous semble tellement une image parfaite qui est véhiculée par, là aussi, les médias aujourd'hui, qu'on finit par en oublier que c'est un passage de l'Évangile. Ce n'est pas une histoire pour enfants. Ce n'est pas un récit pour faire rêver, c'est une partie de la parole de Dieu qui nous parle de quelque chose qui s'est passé au moment de la naissance de Christ. Et si ça s'est passé pendant la naissance de Christ, ça veut dire que ça a du sens pour nous aujourd'hui. Alors, ce n'est pas toujours facile de se débarrasser des représentations, de prendre certains textes qui sont tellement marqués par les dessins, l'histoire, les peintures, les récits, les historiettes, que de retrouver le sens de l'Évangile, parfois ça nous demande un effort. Je vais vous inviter à faire un effort ce matin pour nous centrer sur ce passage de la parole de Dieu. D'abord, ce texte commence par l'inscription de Jésus dans l'histoire des hommes. L'incarnation de Christ n'est pas une histoire pour enfants. C'est l'histoire de Dieu qui s'inscrit dans l'histoire des hommes. Ce n'est pas une petite histoire. Jésus étant né à Bethléem, en Judée. Et il nous est raconté ici l'histoire de mages qui arrivèrent à Jérusalem. L'histoire de l'Église s'est très rapidement intéressée, dès les premiers siècles, à ces visiteurs qui viennent pour rencontrer l'incarnation de Dieu au milieu des hommes. L'histoire de l'Église a été elle-même très marquée par cette histoire de ces mages. Elle prêtait, bien entendu, par son contenu, à éveiller l'intérêt. Mais l'histoire, tout court, a aussi pris en compte ce récit. J'avais oublié, c'est en retravaillant ce texte et ce qui est autour de ce texte, que Flavius Joseph, qui était un historien, c'est un des rares historiens à l'époque de Christ à avoir parlé de Jésus, mais à en avoir parlé sans être ni croyant ni chrétien. C'était un historien qui vivait de l'an 37 à l'an 100, donc en pleine période de la naissance de l'Église. Eh bien, cet homme qui était un juif désireux de faire cohabiter de manière politique et le judaïsme et l'Empire romain, qui a un petit peu échoué sur ce terrain-là, mais qui a fait une œuvre d'historien intéressante. Et c'est notamment à travers de différents écrits, et notamment la guerre des Juifs, où il a retracé l'histoire du judaïsme à l'époque du 1er siècle, qu'il a raconté dans ce livre d'histoire, ce fait de la naissance de quelqu'un, fils de charpentier, qui s'est élevé au milieu de la Galilée et a eu un message assez révolutionnaire au milieu des Juifs. Il a, dans son ouvrage, notamment « La guerre des Juifs », raconté l'histoire d'Israël. Et au milieu de ce livre d'histoire, on entend parler de Jésus et on entend parler aussi de la venue de ces mages. C'est-à-dire que dans le livre d'histoire de Flavius Joseph, il dit ceci, « Des sages venus de Perse ont rendu visite à Hérode en lui disant « Nous venons de Perse, nos ancêtres ont recueilli des Chaldéens l'astronomie qui est notre science et notre art. » Et il raconte l'histoire de ces hommes qui disent avoir été conduits par une étoile. Un historien qui parle de ce fait-là. On n'est pas dans une histoire pour enfants. On est dans l'histoire des hommes visités et rencontrés par Dieu et par l'incarnation de Jésus-Christ. Et puis, cette histoire des rois mages a fait l'objet de recherches très tôt. À partir du 3e siècle, il y a une prise en compte de ces mages de manière particulière. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous allez à Cologne en Allemagne, vous avez un endroit dans la cathédrale qui a été construite et édifiée exprès pour cela, où vous pouvez avoir les ossements des trois rois mages. Ça nous fait sourire, hein ? Oui, sauf que on peut se poser la question, comment ces corps et ces ossements sont arrivés en Allemagne ? Eh bien, en fait, il y a un historien du XIVe siècle qui s'appelait Hildensheim, qui a écrit que ces trois corps en fait ont été récupérés par Hélène, la mère de Constantin. C'est vrai que l'évangile Constantin a été celui qui a instauré le christianisme comme la religion de l'Empire, et sa mère Hélène a commencé à s'intéresser à cette histoire des mages. Et en fait, à cette époque-là, la tradition évoquait que le corps de ces trois mages, qui ont reçu un nom beaucoup plus tard, Melchior, Balthazar et Gaspard, eh bien cette impératrice, Hélène, est allée les chercher aux alentours de l'an 300 pour les emmener jusqu'à Constantinople, où elle a fait construire une église qui s'appelait l'église Sainte-Sophie. Et on a mis, en l'an 300, le corps et les ossements de ceux que l'on pensait être les rois mages dans cette église Sainte-Sophie. Et puis, si on cherche et on continue à regarder au travers de l'histoire, on s'aperçoit que dans les archives occidentales, historiques, on peut suivre le parcours de ces ossements. À partir de l'an 300, donc au IVe siècle, il se trouve qu'au XIIe siècle, ces ossements ont été déplacés de Constantinople à Milan. Tout simplement parce qu'ils ont été offerts à la ville de Milan par Manuel Ier Comnène, qui était l'empereur de Byzantin. Donc il a offert cela à la ville de Milan, et en 1162, il y a Frédéric Barberousse qui a assiégé et pris Milan, et quand il a pris Milan, il a trouvé les reliques des rois mages, et il les a offerts à la ville de Cologne. Comment ces ossements sont partis de 300 jusqu'à la ville de Cologne? On peut se dire... Est-ce que ce sont les mages, les rois mages? On ne sait pas. Mais depuis l'an 300, en tout cas, ces mages occupent une place particulière, où l'histoire, le récit de ces personnages occupe une place particulière dans l'histoire de l'Église. On en entend parler aussi dans un ouvrage au XIIIe siècle que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui s'appelle « Le livre des merveilles du monde ». Vous savez qui a écrit ce « Livre des merveilles du monde » ? Non, quelqu'un que vous connaissez. Au XIIIe, XIVe siècle, il s'appelait Marco Polo. En fait, Marco Polo, quand il a tracé sa route de l'Italie pour tracer la route de la soie jusqu'en Chine, il s'est arrêté à environ 130 km de la région de Téhéran. Et là, il a été visiter une ville où était censé être enterré, ou en tout cas à l'origine, enterré les rois mages. Donc l'histoire des hommes s'est très tôt intéressée à cette histoire de ces hommes qui viennent rendre visite à Christ. Comment des mages d'Orient sont devenus des rois ? Hein ? On s'aperçoit qu'en fait, il y a deux lignes qui conduisent à attribuer le titre de roi à ces mages. C'est tout simplement ce qu'on lit dans le chapitre 60 d'Ésaïe, où il est dit « Les nations vont marcher vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton lever. » Les nations vont marcher vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton lever. Lever de l'Orient à l'Occident. Et donc, dans l'Église du XIIe siècle, eh bien, cette pensée que les rois qui voyagent pour aller vers la lumière de Christ, vers l'incarnation du Christ, ont fait dire que ces rois dont parle Ésaïe, ce sont ces mages. Et puis, il y a le psaume 72 qui dit aussi « Les rois de Tarsis et des îles enverront des présents, les rois de Saba et de Séva paieront le tribut, tous les rois se prosterneront devant lui. » Le psaume 72. Les rois de Tarsis, de Saba et de Séva. Or, la ville où Marco Polo s'est arrêté et où il a vu quelque chose qui était construit pour, comme tombe des rois mages, c'est la ville de Séva. Donc vous voyez comment les choses se sont un peu dans l'imaginaire et la tradition de l'Église construite autour de cela. Alors, au XIIe siècle, les mages sont devenus des rois. Oh, mais il y avait une autre raison beaucoup plus, je dirais, prosaïque, concernant le fait que les mages deviennent des rois, et notamment dans la représentation de l'art chrétien. C'est tout simplement qu'au XIIIe siècle, l'Église commençait à éprouver des difficultés pour soumettre tous les pouvoirs de son époque, les rois et les royaumes, à l'autorité de l'Église. Et représenter des rois à genoux devant le Christ, c'était une manière aussi de dire que les royaumes devaient se soumettre à l'Église. Et donc c'est pour ça que les mages sont devenus aussi des rois. Vous voyez comme quoi ce que nous voyons, disons, lisons, l'interprétation que nous en faisons, eh bien, répond à tout un parcours, à une histoire. Ceci dit, j'ai envie de dire que ces mages qui viennent à Jérusalem et ensuite à Bethléem, sont certainement pour nous un modèle de croyants. quel est leur parcours ? Ce sont des hommes qui ont un signe qui leur fait dire « Mettez-vous en route, allez à sa rencontre. » Ils ont cherché dans le ciel, mais aussi dans les Écritures, quel était ce Dieu qui pouvait répondre à leur attente ? Quelle était la volonté de Dieu ? Et puis, ces mages, ils sont un exemple pour nous de ce qu'est la vraie adoration, celle que Dieu recherche. Et il y a un auteur qui disait « Il croyait dans le Christ avant de le voir. » Il croyait dans le Christ avant de le voir. Mais ce n'était pas tout. Il croyait en lui lorsque les scribes et les pharisiens restaient incrédules. Il croyait en lui lorsqu'ils le virent, petit enfant près de Marie, sa mère, et là ils se prosternèrent devant lui comme devant un roi. Et ils n'avaient vu aucun miracle. Aucun miracle pour les convaincre. Ils n'avaient reçu aucun enseignement de lui pour les enseigner, pour les persuader. Ils n'ont pu observer aucun signe de sa divinité, de grandeur autour de ce nouveau-né. Il était posé dans la paille, dans un lieu triste, isolé. Pas de grandeur, pas de royauté. Pourtant, devant ce petit, ils crurent reconnaître le divin sauveur du monde. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. J'aime beaucoup ce texte parce qu'il me fait penser à ce que nous attendons, nous, lorsque nous sommes face à Dieu. Combien de fois j'ai entendu des hommes et des femmes dire « Si Dieu fait cela, je croirai en lui. Si Dieu se révèle à moi de telle ou telle manière, alors je croirai en sa puissance, en sa divinité, en son autorité. Si Dieu agit comme je le désire, tel que je le souhaite, alors. Si des anges rentrent dans cette pièce, là où je suis, alors je croirai en Dieu. » J'ai entendu cela toute ma vie. Ces mages ont fait tout un chemin et ont adoré le Christ sans que rien ne puisse étayer ou quelque part fonder leur foi. Ils ont cru. Les Juifs avaient davantage que les mages. Ils connaissaient toutes les prophéties. Ils n'étaient qu'à 8 kilomètres de Bethléem. Vous savez, quand ils sont arrivés à Jérusalem et qu'ils ont demandé à Hérode, mais où est le roi des Juifs, celui qui doit naître ? J'ai relu cette semaine une grande partie de la guerre des Juifs de Flavius Joseph, et il y a tout un... Ça serait intéressant, si vous avez l'occasion d'aller chercher cet ouvrage-là ou de le rechercher, vous le trouverez sur Internet maintenant, vous voyez tout ce qu'Hérode a été et a fait. Et quand on relit le récit des évangiles, notamment de Matthieu et de Luc, on s'aperçoit que lorsque les mages sont arrivés à Jérusalem, Hérode était dans une phase de grande instabilité politique. Et avoir quelques hommes, on ne sait pas s'ils étaient trois, c'est la tradition qui les met en relation avec leur don pour dire qu'ils étaient trois. Mais, en tout cas, voir ces hommes arriver et dire « Où est le roi des Juifs, celui qui vient de naître ?» Hérode a dû se sentir très très mal. Et lorsqu'Hérode a demandé à ses savants, à ses prêtres, à ses scribes, « Mais qu'en est-il véritablement de ce que viennent de nous dire, de nous annoncer ces étrangers, ils ont été capables de dire, mais c'est simple, le prophète Michée, dans son livre, dans sa prophétie, il y a quelques centaines d'années, nous a annoncé que ce Messie viendrait à Bethléem. 8 kilomètres, ici, presque jusqu'à l'Orient, avant même l'Orient. 8 kilomètres, personne n'a bougé. Seul. Les mages. Les Juifs avaient tout ce qu'il fallait pour reconnaître celui que Dieu leur envoyait. Le cœur de l'homme religieux est ainsi. Il est fier d'appartenir à une mouvance, à une religion. Il se confie en l'homme plus qu'en Dieu. Et il révère extérieurement Dieu, mais leur cœur est éloigné de lui. C'est ça la religion. Souvent, on me dit, est-ce que votre religion, est-ce que c'est d'être protestant ? Alors, je ne sais pas quoi répondre parce que la notion de religion me dérange. Mais je suis né de nouveau et j'ai rencontré Christ. Alors, j'appartiens à l'Église protestante, évangélique, charismatique et apostolique. Bon. Mais qu'en est-il de notre foi? Ces religieux qui étaient à Jérusalem se croyaient dans la bonne position, la bonne attitude, et en fait, ils étaient perdus parce qu'on ne s'acquiert pas le salut de cette manière-là. La foi croit en ce que Dieu dit et agit. C'est cela qui fonde notre foi. Alors, il est dit dans ce texte que ces mages sont arrivés en posant cette question : où est le roi des Juifs ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et lorsqu'ils repartent vers Bethléem, alors je regardais encore hier le fait qu'on se pose des questions sur cette fameuse étoile, conjonction de Jupiter et de Saturne qui aurait eu lieu en l'an moins 7 ou moins 6 avant Jésus-Christ et qui aurait permis d'avoir une lumière un petit peu particulière qui aurait conduit effectivement les mages depuis l'Orient. Il y a beaucoup depuis 2000 ans d'astronomes qui ont essayé de trouver dans l'histoire des étoiles à quel moment Christ avait pu naître. On sait qu'il n'est pas né au mois de décembre. Pauvre petit mouton hébergé dehors au mois de décembre, même en Palestine, ce n'était pas vraiment l'époque. Alors est-ce que c'est en l'an moins 6, moins 7 ? J'ai envie de dire après, amusons-nous, regardons, intéressons-nous, mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas quand il est venu, l'essentiel, c'est qu'il soit venu. Et qu'il soit venu comme un geste, un don d'amour de Dieu par rapport à nous. Les mages, dit-on, sont venus et ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils savaient ce qu'ils apportaient. Ce soir, je vais passer une partie de la soirée de Noël avec les patientes du centre. Et il est habituel que nous prenions un temps de célébration, de méditation de Noël. Je prendrai certainement aussi le temps de parler de ces mages qui sont venus avec leurs cadeaux. Et puis, il y a des enfants qui sont invités et j'ai dû aller acheter des cadeaux hier au magasin de jouets pour deux enfants de 7 et 8 ans. Et la vendeuse qui me voyait un petit peu perplexe devant les rayons, un garçon et une fille de 7 et 8 ans, j'ai oublié qu'est-ce qui leur correspond ? Et la vendeuse m'a posé cette question. Mais ils ont quel âge ? Alors je dis 7, 8 ans. Qu'est-ce qu'ils aiment ? Je ne sais pas. Je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Je sais qu'ils vont être là. Donc je ne sais pas quoi leur offrir. Elle m'a regardé avec un petit point d'interrogation. C'est étrange cet homme qui cherche des cadeaux pour des enfants qu'il ne connaît pas. Et puis Jésus, lui, il était là dans cette crèche avec son père et sa mère. Et les mages sont arrivés exactement avec les cadeaux qui avaient un sens. Ils sont venus offrir pour l'un de l'or, un métal précieux qu'on offre en général au roi. La tradition a fait que, à partir du XIIe siècle, il est dit que ces trois rois qui avaient reçu leur nom de manière traditionnelle, venaient chacun avec une pièce d'or. L'un a donné de l'or en plus, l'autre a donné de la myrrhe en plus, l'autre a donné de l'encens en plus. Un rappel que l'or était en fait un cadeau que l'on faisait à celui qu'on considérait comme détenant la royauté. Comment ces hommes ont-ils pu traverser tant de distances pour reconnaître un enfant dans une crèche, dans une étable, comme étant leur supérieur, leur roi? Quel est le chemin que nous avons fait, chacun pour notre part? Quels sont les déserts que nous avons traversés? Quelles sont les difficultés pour qu'enfin nous puissions rencontrer le Christ, non plus dans une crèche, mais en tout cas dans son humanité, et reconnaître en lui le cadeau de Dieu pour notre vie. L'humanité de Christ. Et c'est Karl Barth qui en parle admirablement dans son esquisse d'une dogmatique quand il revoit le credo. Il parle de cette humanité comme étant un point essentiel. Dès le premier siècle de l'Église, cette humanité de Christ a été remise en question par certains croyants en disant « Il est impossible que nous puissions imaginer que Dieu accepte de s'incarner et d'être tué par les hommes. » Ah, ils ont cherché des solutions en disant ben, « Il y a quelqu'un qui s'est substitué à lui. En tout cas, il n'est pas tout à fait mort. » Mais le mystère de l'incarnation de Christ est là. C'est que Dieu a accepté de se faire homme. Et c'est cet homme-là, potentiellement présent dans cet enfant, que les mages ont honoré en disant « Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs ». Est-ce que nous avons cette révélation ? Est-ce que nous portons cette révélation en nous ? Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est homme incarné, Dieu incarné au milieu des hommes et homme à part entière. L'autre a apporté de l'encens. C'est une gomme résine qui est tirée d'un arbre et qu'on obtient en faisant un peu comme pour le caoutchouc, une incision à l'arbre, et qui émettait un parfum, un grand parfum que l'on brûlait et qui était un élément important dans l'adoration. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 30 et au verset 34, il nous est parlé de cet encens qui montait en permanence. Deux hommes vers Dieu, du temple vers Dieu. Un encens qui avait pour représentation la prière et l'adoration permanente, qui est due à Dieu par les hommes. Devait-il y avoir un culte ce matin ? Je pense qu'il devrait y avoir un culte et que nos vies devraient être un culte permanent, comme le temple où l'encens montait en permanence. Est-ce que nous sommes de ces temples-là ? On dit souvent que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ah oui, mais si nous sommes le temple du Saint-Esprit, alors cet encens, cette adoration qui monte vers Dieu devrait monter vers Dieu en permanence. Ou bien est-ce que nous avons des heures d'ouverture pour l'adoration ? Le dimanche de 10h à 12h30, le mercredi éventuellement pour la réunion de prière, le matin, au moment de mon culte personnel, au moment où je bois mon café et avant d'aller au travail, j'ai une fenêtre d'adoration. Ou bien est-ce que je suis véritablement le temple du Saint-Esprit et que cet encens est présent comme une adoration permanente ? Est-ce que la lumière de Christ brille en permanence sur ma vie ? Où est-ce que je suis semblable à cette lumière de Noël qui est alternative ? Elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint. Une guirlande clignotante. Est-ce que nous sommes des chrétiens clignotants par alternance ? Ou est-ce que cette adoration, cette relation à Dieu est présente de manière tellement forte et permanente que le monde voit ? Où est Christ au milieu des ténèbres ? La myrrhe est une autre résine qui est une composante de l'huile d'onction. On le retrouve là aussi dans l'Exode au chapitre 30, au verset 22. Et elle était utilisée notamment en Égypte pour l'embaumement des corps. Et la myrrhe symbolise l'amertume, la souffrance et l'affliction. Quand j'ai quitté Le Havre à 23-24 ans pour venir ici en Bretagne, j'ai eu un cadeau assez étonnant que j'ai trouvé génial. C'est un petit coffret, je ne sais pas s'il existe aujourd'hui encore. Et dedans, il y avait des petites éprouvettes. Et il y avait, bon, je pense, une dizaine d'éprouvettes. Et dedans, avec une petite bille, vous savez, comme pour les parfums, un tube avec du parfum, on mettait et on sent. Et c'était tous les parfums de la Bible. Tous les parfums de la Bible, enfin une partie des parfums les plus importants, et dedans il y avait la myrrhe. Et quand je l'ai mis, c'est vrai que c'était un peu amer, c'était pas, je pense pas que je l'aurais porté en permanence comme un parfum. Il y a de l'amertume dans la myrrhe. Ça parle de la souffrance, de l'affliction. À la naissance de Christ, les mages lui ont offert de la myrrhe qui parlait aussi de l'amertume qu'il y avait dans cette incarnation qui annonce la croix. Il n'y a pas de Noël sans que l'ombre de la croix ne soit présente dans le message de l'incarnation. Noël sans la croix, cela n'aurait été pour Jésus que parler de lui comme un de ces personnages qui ont émaillé. Je relisais hier, entre autres, dans la guerre des Juifs de Flavius Josèphe, tous ces simili-messies qui étaient présents à l'époque avant Jésus et après Jésus. L'histoire des Maccabées, Judas Maccabée, a été considéré quelques années précédant la venue de Jésus comme un messie. Et il y en a eu d'autres. Ce qui fait de Christ le Messie sauveur, ce sont tous les textes de l'Ancien Testament qui nous parlent, notamment dans les psaumes et dans Isaïe, d'une incarnation pour laquelle la perspective, c'est Golgotha. Ah, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous aimons ce psaume. Mais peu lisent le psaume 22 qui parle de l'amertume de la croix, de la souffrance de celui qui vient. Relisons d'abord le psaume 22 et ensuite lisons le psaume 23 pour comprendre pourquoi je peux dire « Il est mon berger, je ne manquerai de rien ». Noël, c'est la fête du don. C'est la fête des cadeaux. Et il y a eu, je disais, je rappelais le décès de Jean d'Ormesson il y a quelques semaines. Et je rappelais combien cet homme avait laissé une trace dans la littérature. Et notamment, je me rappelais de son livre parlant du juif errant. Le juif errant, c'est ce juif qui, dans la tradition chrétienne, apparaît dès le 3e siècle. Et il est le contraire des mages. C'est celui qui ne donne pas, celui qui retient. Dans la tradition chrétienne, à partir du 3e siècle, apparaît l'histoire de ce juif qui aurait refusé un verre d'eau à Jésus alors qu'il portait sa croix et qu'il montait vers Golgotha. Et dans l'histoire, la tradition chrétienne, il y a eu à partir du 3e siècle ce récit qui a été repris dans tous les pays, etc., et dans toutes les églises, de ce juif qui a été condamné à vivre éternellement. C'est-à-dire que la mort lui a été refusée comme il avait refusé le verre d'eau à Jésus. Et il traverse l'histoire de toute l'Europe, de tous les pays, notamment dans les pays slaves, on retrouve beaucoup l'histoire du juif errant. Il y a un livre que j'ai dans ma bibliothèque depuis au moins 30 ans, qui est un livre d'Edmond Flegg, qui était au début du XXe siècle une des grandes figures du judaïsme en France, un écrivain, philosophe, essayiste. Et il avait écrit cette histoire en essayant de montrer le juif errant non plus comme quelqu'un qui portait un jugement, mais comme quelqu'un qui pouvait annoncer l'évangile parce qu'il s'était repenti. En tout cas, il souhaitait annoncer le message de Jésus. Le juif errant, c'est celui qui n'a pas donné et qui est condamné pour cela. Je crois qu'il y a une forme de condamnation lorsque nous ne donnons pas ce que nous avons reçu. Pourquoi donner ? Le livre des Proverbes dit ceci, « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. » Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Est-ce que ce n'est pas ce que Dieu a fait pour nous ? Est-ce que Dieu n'a pas fait ce miracle à nous qui étions ses ennemis, qui avions faim de vérité, d'espérance, qui avions faim de sainteté et de justice? Est-ce que nous qui étions ses ennemis, il ne nous a pas donné de quoi manger? Et cette table qui est devant nous nous le rappelle. Est-ce qu'il ne nous a pas donné à boire en disant « Je suis cette eau, si vous buvez cette eau, vous n'aurez plus jamais soif. » Est-ce que vous avez soif ce matin ? Est-ce que vous avez soif de Christ ? Est-ce que vous avez faim de Christ ? Parce que c'est là la table qui est dressée pour nous. C'est ce que le Père a fait. Alors, Que donner ? Comment donner ? Dans le livre des Éphésiens, l'épître des Éphésiens, au chapitre 5, verset 1, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Soyez, devenez les imitateurs de Dieu. Waouh ! Je veux bien recevoir ce que Christ est, mais est-ce que je veux devenir ce que Christ est, la manière dont il s'est donné ? Il s'est donné tout entier. L'Épître aux Philippiens nous dit en substance qu'il s'est vidé. Quand il s'est donné, il n'a rien gardé pour lui. Il s'est vidé. Un prédicateur utilisait cette image un peu triviale en disant « Il s'est retourné comme une chaussette. » C'est-à-dire, quand, vous savez, quand, moi, je ne fais jamais ça. Quand ma femme s'en va et que je fais la lessive, je ne vais quand même pas me casser la tête à retourner les chaussettes. Elles se laveront bien tout aussi bien comme ça. Mais ma femme, elle prend le soin de les retourner. Ouais, pareil que ça se fait comme ça. Jésus s'est vidé de lui-même. Il s'est donné, il n'a rien retenu. L'incarnation que nous célébrons aujourd'hui, c'est la célébration d'un Dieu qui a abandonné sa divinité. C'est cela. Et d'Ormesson le disait dans une interview, ce qui m'émerveille, c'est l'incarnation du Christ. Est-ce que nous sommes émerveillés de cela ? Et la manière dont il s'est donné, si l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, devenez les imitateurs de Dieu, est-ce que je suis imitateur de Dieu dans ma manière de me donner et de donner ? Hein ? Il n'y a pas de bonne manière de donner si nous n'avons pas appris à recevoir. Croyez-le. Si nous ne savons pas recevoir, nous ne saurons pas donner. Et quand je rencontre le Christ et que ce Christ, je le reçois comme quelqu'un qui se donne totalement, alors je peux être en capacité de donner véritablement et de me donner. Dans un monde en crise où le chacun pour soi et le sauve qui peut deviennent le réflexe commun de chaque jour, il est bon de se souvenir des paroles inédites du Seigneur rapportées par l'apôtre Paul. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans les Actes 20, verset 34. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Encore faut-il avoir compris comment recevoir, que recevoir. Cette parole de Paul aux anciens d'Éphèse fonde la vraie motivation dans les relations entre les humains et au-delà. Donner est donc une disposition de cœur plus qu'une transmission de biens. C'est d'abord une disposition de cœur. Comment je suis par rapport à Dieu et ensuite par rapport aux autres. C'est une disposition de cœur. Oh, sinon, c'est facile de donner. Je lisais dans les journaux qu'une grande chanteuse américaine était... Il y a un classement aux États-Unis, ils ont des classements pour tout. Et ils ont un classement où tous les grands artistes sont classés dans leur capacité à donner. Alors, je sais que l'année dernière, c'était une chanteuse qui s'appelait Taylor Swift, qui, je ne connais pas du tout, jamais écouté ses chansons, mais elle est très connue, des plus grandes chanteuses. Elle était classée la première parce qu'elle a su donner à des moments donnés, et des choses très belles. Elle a donné $1 million pour une ville qui avait été ravagée par un ouragan. Et puis, elle a eu des gestes vraiment de grande bonté, une véritable bonté. Elle avait détrôné Beyoncé, vous vous rendez compte ? Je ne sais pas qui est Beyoncé non plus. Mais enfin, il paraît que c'est important. Hein ? Aujourd'hui, donner, c'est véritablement une disposition de cœur que Dieu attend de nous. Ce n'est pas parce que nous avons des millions de dollars sur notre compte en banque, si vous en avez. N'oubliez pas que la dîme est de 10% et que la boîte est au fond. Ce n'est pas cela, c'est quelle est ma disposition de cœur, qu'est-ce que j'ai reçu et est-ce qu'en fonction de ce que j'ai reçu, je suis en capacité de le redonner. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas recevoir, vous en connaissez autour de vous ? des personnes qui n'aiment pas recevoir. Elles n'aiment pas être placées, malgré elles, devant le fait accompli et en situation parfois de dépendance. Il y a des personnes qui n'aiment pas ça. J'aime pas être au centre. J'aime pas recevoir. Puis j'aime pas dépendre de ce que l'autre va m'apporter. Elles se sentent redevables. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont rien demandé, qui souhaitent qu'on respecte leur volonté. Quand je travaillais avec les sans-abri, c'était souvent quelque chose auquel j'étais confronté. Je travaillais 12 ans avec les sans-abri et il m'est arrivé d'avoir des hommes, des femmes aussi, mais souvent des hommes qui refusaient de recevoir. Non, non, je vais me débrouiller tout seul. J'ai le souvenir d'un homme que j'ai accompagné pendant 2-3 ans. Et puis, j'avais un espace d'hébergement pour les sans-abri. Je lui ai dit, écoute, ce serait bien que tu viennes. Il fait froid, la température est en train de chuter. Non, non, je vais me débrouiller, tu sais, je veux pas être dépendant des autres, etc. Puis j'ai fait ça sur une période où le froid était vraiment terrible. Et un lundi, je suis rentré au bureau et un coup de fil de la mairie, monsieur Intel est mort. On l'a retrouvé mort au bout de l'escalier qui conduisait au-dessus du bassin à flot à la maison de la mère, mort de froid. Je ne veux pas recevoir. Il y a plein d'hommes et de femmes qui refusent de recevoir l'amour de Christ et qui en meurent. Il y a même des chrétiens qui refusent de laisser Christ leur donner tout ce qu'il a à leur donner et qui laissent mourir des parties de leur vie et d'eux-mêmes. C'est terrible. C'est terrible quand on aime l'autre à côté et qu'on le voit se priver de la grâce, du don de Dieu pour sa vie. Et on voit des parties qui s'étiolent, qui meurent. En fait, recevoir, c'est pas si simple que cela. Alors comment apprendre à recevoir? C'est l'apôtre Paul qui dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Nous avons tous reçu de Dieu et la vie et l'espérance. Et ce que nous avons reçu, nous pouvons simplement dire merci Seigneur. Et ce que nous avons reçu, nous pouvons simplement dire je le partage et je le donne. Jésus disait, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il est là le miracle concernant l'apprentissage de recevoir. Si j'ai reçu, je l'ai reçu comme un cadeau et comme une grâce. Alors, je peux donner. Nous avons tous reçu de sa plénitude, dit l'évangile de Jean, et grâce pour grâce. Quand j'ai reçu Christ, j'ai tout reçu gratuitement et grâce pour grâce. Alors, je peux, en ayant reçu, en ayant conscience, en laissant le Saint-Esprit m'ouvrir les yeux sur ce que j'ai reçu. Parfois, nous avons tellement les yeux fixés sur ce que nous n'avons pas reçu. Ce matin, en me rasant, je ne pensais pas à devenir président de la République, je vous rassure tout de suite, comme certains, mais en me rasant, j'écoutais France Inter, et en écoutant la radio, il y a des enfants qui disaient leur déception quand ils avaient reçu quelque chose. Et un enfant disait, j'avais mis dans ma liste une console que j'espérais avoir. Et puis, j'ai eu un camion en bois. J'ai été déçu. Et il y avait une jeune fille d'une dizaine d'années qui disait, moi j'avais espéré avoir un jeu bien particulier qui me faisait tellement plaisir. J'avais mis sur ma liste. Et quand j'ai ouvert le paquet, le cadeau que j'ai reçu de manière fébrile, j'ai ouvert, c'était une housse de couette. Alors j'ai fait semblant d'être content. Et parfois, on peut dire que chez les chrétiens, c'est parfois un peu la même chose. Est-ce que nous sommes véritablement dans la joie, dans l'allégresse de ce que nous avons reçu? Ou est-ce que nos regards ne sont fixés que sur ce que nous n'avons pas? Il y a un proverbe hébreu qui dit « Qui donne ne doit jamais s'en souvenir, qui reçoit ne doit jamais l'oublier. » Ah, j'aime beaucoup ça. « Qui donne ne doit jamais s'en souvenir et qui reçoit ne doit jamais oublier. » Ce que j'ai reçu de Dieu, je ne dois jamais l'oublier. Mais ce que je donne parce que je l'ai reçu de Dieu, alors je dois l'oublier. C'est Corneille qui disait « Donner est un plaisir plus durable que recevoir, car celui des deux qui donne est celui qui se souvient le plus longtemps. » Ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on aime tellement se souvenir de ce qu'on a donné. Et un proverbe français qui dit « La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. » La façon de donner vaut mieux que ce que l'on donne. Alors Dieu nous a tout donné. La parole de Dieu nous en parle. Il nous a donné le Christ comme cadeau suprême. C'est lui qui donne par sa mort la vie éternelle à toute créature dans l'évangile de Jean. Alors, est-ce que nous sommes, nous aussi, de ceux qui, en ce jour de Noël, vont se rappeler de ce que nous avons reçu et qui vont être capables de donner comme ces mages qui sont venus avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe? Je terminerai en disant que en Allemagne, il y a une tradition le 6 janvier, qui est un jour férié depuis le XIIe siècle. Et dans les régions, notamment catholiques, il y a une tradition, un folklore qui perdure, c'est les chanteurs de l'étoile. C'est-à-dire en relation, je terminerai, parce que c'est en relation avec les mages. Et cette tradition qui est vraiment ancrée en Allemagne, les enfants et parfois les adultes se déguisent en rois mages. Et puis, ils improvisent pour ce jour particulier une petite chorale. Et puis, ils vont entonner des petits chants aux portes des maisons. Alors, c'est, je trouve, plus sympa qu'aux États-Unis, où c'est un petit peu plus commercial. Mais là, ils vont de maison en maison avec ces Sternsänger, c'est les chanteurs de l'étoile. Je ne suis pas sûr de mon allemand. Hein. Mais voilà, je dis ça pour ceux qui sont germanophiles. Et donc, ils vont avec ces petites chorales de maison en maison. Et puis, ils chantent et puis ils récoltent soit des aumônes, ou en tout cas des remerciements. Et puis quand les personnes ont ouvert la porte et les ont accueillis, ils ont une craie et ils mettent sur la porte d'entrée, pour les remercier, trois lettres. CMB. Non, ce n'est pas Crédit Mutuel de Bretagne. CMB, ça signifie Christus Mansionem Benedictat, ce qui veut dire maison bénie par le Christ. Oh, j'aime cette tradition. J'aimerais bien que, moi, autant je suis défavorable aux enfants qui viennent, vous savez, à la fête d'Halloween, déguisés pour faire peur, autant que si j'avais une chorale, les chanteurs de l'étoile qui viendraient me chanter des chants proclamant la naissance de Christ et marqués sur ma porte CMB, Christus Mansionem Benedictat, maison bénie par le Christ, eh bien, je serais heureux. Mais bizarrement, quand on met CMB, ça reprend les initiales de Caspar, Melchior et Balthazar. C'est-à-dire les trois initiales de ceux qui sont devenus les représentants des mages. Puissions-nous, nous aussi, être des hommes et des femmes qui, comme ces chorales de l'étoile, proclamons la naissance de Christ, sa mort et sa résurrection. Et que nous puissions, nous aussi, marquer sur la porte ou la vie de ceux qui nous entourent. CMB, Christus Mansionem Benedictat, maison bénie par le Christ. C'est là notre mission. Que ça puisse être entre notre mission pour ce temps aussi de Noël en famille. Merci Seigneur de ce que ton écriture, ta parole, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à ôter non plus. Et que ce récit de ces mages venus t'adorer nous rappelle que nous sommes nous aussi appelés à venir t'adorer et à t'apporter là aussi dans notre adoration cette reconnaissance que tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Que tu es celui qui est venu non pas pour devenir une autorité au milieu des hommes seulement, mais tu es venu d'abord pour te donner toi-même. Comme un cadeau d'amour du Père pour chacun d'entre nous. Que notre cœur soit rempli de cette assurance, de cette certitude, de cette proclamation 365 jours par an et pas simplement le 25 décembre. Que nous puissions dire « J'ai reçu et ce que j'ai reçu, je veux le donner. » Amen. J'aimerais qu'on s'approche de la table, simplement ensemble, pour partager ce pain, cette coupe. Voilà, qu'on puisse la faire, que l'on partage ou pas le repas du Seigneur.